les animaux reconnaissants. Un honnête homme qui vivait à la campagne du produit d'une petite pièce de terre et qui se contentait d'une modeste aisance, apprit tout à coup qu'un de ses parents éloignés venait de mourir en le nommant son héritier. Quand il se vit riche, il voulut le devenir davantage et se mit dans le commerce, comptant faire fortune avant peu. Il s'imaginait qu'en se conduisant loyalement, en achetant de bonnes marchandises, en les revendant à petits bénéfices, il ne pouvait manquer de réussir. Malheureusement, les événements trompèrent ses espérances. Des fripons le volèrent, ses amis le trahirent, ses correspondants l'exploitèrent, et il se vit bientôt plus pauvre qu'il ne l'avait jamais été. Il lui devint si pénible de vivre dans un pays où il avait éprouvé tant de malheurs qu'il résolut de s'expatrier. Il réalisa son bien, et quand il eut payé ses dettes, il ne lui resta que 3 pièces d'or. C'est avec cette somme qu'il entreprit de courir le monde. Le lendemain de son départ, il arriva dans un village où des enfants criaient et couraient de tous côtés. « Que faites-vous ? » leur demanda-t-il. « Et d'où provient une joie si bruyante ?»« Nous avons sujet de nous divertir, » répondirent les polissons. « Nous avons attrapé une souris blanche qui fait 100 tours de passe-passe. La voyez-vous attachée à cette ficelle ? Il suffit de la fouetter quelque peu et elle fait les cabrioles les plus réjouissantes. » L'homme prit en pitié la petite bête et dit à ses tapageurs « Vous faites grand mal à cette souris égarée. Si vous voulez la détacher et la laisser partir, je vous donnerai 1 pièce d'or. » Ils y consentirent, et dès qu'ils furent payés, ils lâchèrent la bestiole qui se sauva dans un trou où personne ne pouvait l'atteindre. Une lieue plus loin, le voyageur rencontra des écoliers qui avaient loué des ânes à la ville voisine pour faire une cavalcade. Les ânes étaient pleins de bonne volonté, mais les mauvais garçons abusaient de leur patience. 4 des plus grands d'entre eux, pour figurer les 4 fils Aymon, s'étaient placés sur l'échine d'un baudet et voulaient le faire avancer à coups de talons. L'âne pliait sous le faix et faisait la mine la plus piteuse. Quand l'étranger passa, il leva les yeux vers lui, comme pour lui demander secours. Cela toucha le passant, et il offrit 1 pièce d'or aux écoliers s'il voulait délivrer l'animal. Ils s'y accordèrent et le mirent aussitôt en liberté. À la porte de la ville, le voyageur fit halte pour se reposer un peu avant d'y entrer. Mais son oreille fut frappée par des rugissements sourds et douloureux qui sortaient d'un bois voisin. Il y courut et trouva des bohémiens en train de corriger un ours savant qu'il montrait dans les foires de campagne. L'ours avait, à ce qu'il paraît, manqué plusieurs pas de danse et il lui enseignait la mesure à coups de trique. L'étranger voulut s'interposer, mais on le repoussa rudement. Et comme on maltraitait indignement la pauvre bête, il se décida à sacrifier le reste de son argent pour qu'on la laissât en repos. L'affaire fut conclue, et l'ours parut très heureux de se retrouver sur ses 4 pieds. Cependant, notre aventurier continuait son voyage, sans s'inquiéter des animaux qu'il avait sauvés. Hélas, il s'aperçut bientôt qu'en cédant à ses instincts de bonté, il avait trop peu ménagé sa bourse. L'argent lui manqua absolument, et il se vit réduit à vivre de l'air du temps et à loger à la belle étoile. Dans cette triste conjoncture, il rencontra les fourgons du trésor, qui portaient au palais du roi les impôts recueillis dans la contrée. L'un d'eux était en mauvais état et semait sur la route des pièces d'or et d'argent qui brillaient comme des étoiles. Le pauvre homme rendit grâce au ciel et se mit à ramasser le bien que Dieu semblait lui envoyer. Mais les gardes l'aperçurent et lui coururent sus pour lui faire un mauvais parti. Ils l'accusèrent d'avoir fracturé la voiture pour en voler le contenu et l'amenèrent devant le tribunal criminel. La justice était fort expéditive dans ce royaume. Les magistrats écoutèrent le voyageur avec assez de bienveillance. Comme ils virent qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, ils lui firent grâce de la vie. Mais pour donner un exemple, ils le condamnèrent à être enfermé dans une boîte qui serait jetée à l'eau. Cela n'était pas rassurant, mais la bonne figure de l'étranger avait intéressé l'auditoire, et le menuisier qui devait fabriquer la boîte l'encouragea secrètement. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il, je vous ferai une caisse solide, bien jointe et qui voguera comme un petit bateau. Je percerai de trous le couvercle pour que vous ne manquiez pas d'air. Et vous pourrez vous figurer que vous vous promenez en gondole. » Le lendemain, la sentence s'accomplit, mais le bon ouvrier avait tenu ses promesses. Le prisonnier, couché commodément et bercé par les vagues, se trouva d'abord à merveille. Puis il finit par s'ennuyer, et quand il songea qu'il allait mourir de faim dans cette boîte, il perdit toute sa gaieté. Tout à coup, il entendit trottiner sur le couvercle de sa prison. C'était une souris blanche qui s'agitait beaucoup et qui rongeait les liens qui assujettissaient la caisse. Ils cédèrent peu à peu et, d'une poussée, l'homme brisa les planches qui lui cachaient le jour. Il navigua comme il put, battant l'eau de ses mains, et arriva sur la terre ferme où l'âne et l'ours, qui l'attendaient avec impatience, l'aidèrent à descendre. Les trois animaux lui témoignèrent leur joie de le revoir sain et sauf, et quand il se vit de si bons amis, il leur proposa de ne plus le quitter. Mais il était très embarrassé pour vivre, et ils tinrent conseil à ce sujet. L'âne parla le premier.
« J'ai passé quelques années, dit-il, au service d'un méchant magicien qui ne se servait de son pouvoir que pour faire du mal. Il m'a donné plus de coups que de poignées de foin. Et je serais bien aise de l'en punir. Ce vieux coquin conserve dans sa cave un talisman extraordinaire. C'est la pierre miraculeuse avec laquelle on peut avoir tout ce que l'on désire. Malheureusement, il ne la quitte jamais qu'un instant, le samedi, pour renouveler des conjurations qu'il fait autour de sa maison et qui empêchent qu'on y puisse pénétrer. Ce serait une chose admirable si nous pouvions nous emparer de ce trésor. »
« Cela me paraît difficile, dit l'ours. Si la maison est enchantée et si le sorcier a toujours les yeux sur la pierre, comment voulez-vous en approcher ?»«
Je vais vous le dire. C'est aujourd'hui samedi et nous n'avons qu'à rôder sans faire semblant de rien près de la demeure de ce mauvais homme. Dès que vous le verrez sortir, ours, vous vous précipiterez sur lui en rugissant d'une manière effroyable, comme si vous vouliez le dévorer. Ayez soin de vous placer devant la porte de la maison pour qu'il ne puisse pas y entrer. Pendant ce temps, souris, vous descendrez dans la cave où vous trouverez la pierre blanche qui ressemble à un œuf et qui est suspendue à un long ruban. Elle est fort lourde et vous ne pourrez pas la traîner. Mais vous m'apporterez le bout du ruban et je la hisserai par le soupirail de la cave.
Vous pouvez compter sur moi, dit Dame Grignotte.
L'homme trouva tout cela fort bien imaginé et ils se dirigèrent vers une épaisse forêt de cèdres où le magicien avait sa demeure. Tout se passa fort bien, sauf une écorchure à l'oreille que l'ours reçut dans la bataille. Le pauvre homme n'eut pas plutôt la pierre dans ses mains qu'il l'éleva en l'air et souhaita un palais avec des jardins et des haras. Sa volonté s'accomplit à l'instant et il s'établit avec ses amis dans une magnifique résidence où ils avaient à profusion tout ce qu'ils pouvaient désirer. Ils y passaient gaiement leur vie, sans s'inquiéter du sorcier et de sa colère, car la puissance de la pierre les protégeait. Cependant, leur ennemi avait fini par découvrir leur habitation, et il rêvait nuit et jour au moyen d'exercer sa vengeance contre eux. Comme il n'était pas le plus fort, il voulut essayer de la ruse. Il se déguisa en marchand étranger, avec une perruque et des lunettes, et vint frapper le soir au château. Le propriétaire était à table avec ses amis. La souris courait sur la nappe, l'âne mangeait de l'avoine dans un saladier d'argent, et l'ours, assis sur son derrière, trempait sa patte dans les sauces et la léchait fort proprement. On invita le marchand à dîner, car la maison était hospitalière, et il but et mangea à son aise.
« Je vous fais compliment, dit-il à son hôte, sur la splendeur de votre palais. La dernière fois que je passais dans ce pays, il n'y a pas fort longtemps, on ne voyait ici qu'un désert inculte. Comment avez-vous fait pour bâtir aussi rapidement ? Je ne croyais pas qu'on pût trouver au monde des ouvriers aussi prompts et aussi habiles. »«
Je le crois comme vous, » dit le maître, « et tout cela est l'ouvrage d'un talisman. »«
En vérité, J'avoue que je serais curieux d'admirer cette merveille.
Rien de plus facile. C'est cette belle pierre blanche que vous voyez sur ma cheminée, dans une coupe de velours. Le marchand prétexta la faiblesse de ses yeux et demanda à toucher la pierre miraculeuse. On la lui mit entre les mains et il se récria sur sa grosseur, sa pesanteur et son poli parfait. En parlant ainsi, il trouva moyen de lui substituer une pierre absolument pareille qu'il avait apportée avec lui, et il fit glisser le talisman au fond de ses larges manches. Les animaux ne se doutèrent de rien en voyant le marchand replacer un caillou blanc sur la cheminée. Et quand il partit, ils l'accompagnèrent jusqu'à la porte, en lui souhaitant un bon voyage. Le magicien n'était pas à 100 pas du château que cette superbe demeure s'évanouit en fumée. Les 4 amis qui s'étaient assis sur un banc de gazon dans un bosquet de fleurs se trouvèrent au milieu d'une campagne aride et brûlée. Au même instant, une troupe de soldats qui passait par là reconnut l'homme pour le voleur du trésor royal et le conduisit en prison. On fit valoir l'ancienne sentence prononcée contre lui. On l'enferma dans une nouvelle boîte et pour qu'il ne pût l'ouvrir cette fois, on la cloua solidement au lieu de l'attacher. Cette seconde promenade sur l'eau s'annonça plus mal que la première. Le pauvre homme avait grand peur que ses amis ne pussent le retrouver, car on l'avait jeté à une très grande distance du bord. La souris arriva jusqu'à lui, mais elle ne put ouvrir la caisse et fut obligée de revenir au rivage pour s'entendre avec l'âne et l'ours. « Il faut retrouver la pierre miraculeuse !» se dirent-ils. « Sans cela, tous nos efforts seront vains !» Cet avis réunit tous les suffrages, et les bons animaux se rendirent près du logis du magicien pour voir ce qu'ils pourraient tenter. Mais la maison de l'enchanteur était impénétrable, et ils durent camper aux environs et attendre le samedi pour former quelque entreprise. Dès que ce jour fut arrivé, la souris se glissa chez le sorcier par une fente de la muraille. Elle revint bientôt fort effrayée.
« Mauvaise nouvelle !» dit-elle. « J'ai vu la pierre suspendue au plafond par un cordon de soie rouge. Elle se balance comme un lustre au milieu de l'appartement. Un gros chat noir qui a des yeux jaunes se promène gravement au-dessous. Je le connais de réputation, c'est une sentinelle vigilante. Il ne dort jamais et au moindre bruit, ah ! Il pousse un cri d'alarme !»
Ce récit jeta tout le monde dans l'embarras.
« Il ne faut pas songer, dit l'ours, à employer le moyen qui nous a déjà servi. Le magicien doit être sur ses gardes, et si je l'attaquais, il me passerait sûrement sa baguette au travers du corps.
»« Cela pourrait vous arriver,
répondit l'âne.
« J'ai autre chose à vous proposer. Il faut que Dame Grignotte prenne son courage à 2 mains et aille agacer le chat lui-même dès que le magicien sortira de la maison. Quand le chat l'aura senti, elle fuira par la porte ouverte et fera son possible pour l'entraîner dans la forêt. Le chat la poursuivra sûrement. Le sorcier ne voudra pas perdre une bête qui lui est si utile. Pendant qu'ils courront l'un après l'autre, nous irons décrocher la pierre et nous nous sauverons.
« Ce projet est admirable, dit l'ours.
« Je le trouve moins beau que vous,
répondit la souris.
« Car ce coquin de chat me paraît avoir de terribles jambes. Je me décide pourtant. Qui ne hasarde rien n'a rien. Cachez-vous avec soin. Je vois la porte qui s'ouvre. »
Le sorcier parut en effet sur le seuil de sa demeure et explora les environs d'un œil défiant. L'âne et l'ours s'étaient cachés derrière de gros buissons. Tout lui parut tranquille. Il sortit lentement et commença ses conjurations. La souris profita d'un moment où il avait le dos tourné et se glissa dans la maison où le chat bondit de surprise en l'apercevant.
« Bon Dieu ! S'écria-t-il. Qui a pu conduire ce gibier friand dans cette baraque en santé ? Rendons grâce au ciel et faisons-en notre profit !»
Il s'élança vers Grignotte, mais elle était déjà bien loin. Dans sa course précipitée, il s'embarrassa dans les jambes du magicien qu'il faillit faire choir. Cela donna de l'avance à la souris.
« Mûre ! »
cria le sorcier en appelant le fugitif.
« Libertin, gourmand, où courez-vous ainsi ? Arrivez de suite, vaurien que vous êtes ! Vous allez me payer cette escapade !»
Il courut en colère après le chat. L'âne et l'ours, faisant diligence, entrèrent aussitôt dans la maison. L'âne fit la courte échelle à son ami, et celui-ci, grimpant sur son dos et se levant sur ses pieds de derrière, saisit la pierre entre ses dents. Ils décampèrent à toutes jambes, fort inquiets dans le fond du sort de la souris, et ils s'arrêtèrent sur le rivage où elle avait promis de les rejoindre. On voyait flotter au loin la caisse où le pauvre homme était enfermé. Or, le talisman n'avait de pouvoir que dans des mains humaines, et ils ne savaient comment le porter à leur ami. Sur ces entrefaites, on vit arriver d'un air délibéré Dame Grignotte, qui boitait un peu et qui avait une physionomie singulière. Elle avait perdu sa queue, que le chat avait saisie entre ses dents au moment où la petite bête s'enfonçait dans un trou, qui s'était trouvé là fort à propos pour lui sauver la vie. Après les embrassades et les compliments, on s'occupa du bonhomme.
« Comment atteindre la boîte ?»
dit la souris.
« Rien de plus facile, » lui répondit l'ours. « Je sais très bien nager et je me fais fort de vous conduire. Si vous êtes fatigué de vos courses, vous n'avez qu'à vous asseoir sur ma tête. Pour vous, mon cher ânon, vous prendrez la pierre dans votre bouche et comme je vous crois un médiocre nageur, vous appuierez sur mon épaule votre pied de devant pour vous soutenir. »
Tout étant bien convenu, ils se mirent en route. L'ours nageait avec une habileté extrême et l'on approchait de la caisse à chaque instant.
« Il faut avouer, dit l'ours, que nous sommes des gens solides et sur lesquels on peut compter. Ne venons-nous pas à bout de toutes nos entreprises? Qu'en dites-vous, mes amis ?»«
Très bien,
dit la souris.
Sauf que nous y avons laissé notre queue. »«
Et un peu d'oreille. Mais notre ami l'âne en est sorti sain et sauf. »
L'âne fit un signe d'assentiment.
« Il faut convenir,
reprit l'ours,
que vous avez une éducation bien négligée. » Pourquoi ne me répondez-vous pas quand je vous parle ?
L'âne se tut obstinément.
En vérité, dit l'ours à la souris, je n'ai jamais vu une bête plus grossière.
L'âne, dont l'amour-propre était le petit défaut, ne put y tenir davantage. Il ouvrit la bouche et laissa tomber la pierre magique.
Ne saviez-vous pas,
dit-il,
que j'avais la pierre entre les dents et que je ne pouvais pas parler ? « Il faut que vous soyez un fier étourneau pour l'avoir oublié. Voilà notre talisman perdu par votre faute !»«
C'est malheureusement vrai,
dit l'ours tout confus.
Mais il ne s'agit pas de disputer. Songeons plutôt à ce que nous avons à faire. »
Ils revinrent sur la plage, et l'ours appela quelques grenouilles qui passaient.
« J'ai à vous annoncer une triste nouvelle,
leur dit-il.
Il doit arriver demain dans ce pays « des monstres amphibies qui se repaissent de grenouilles et qui ont l'intention de vous dévorer toutes. Je vous en préviens, par bonté d'âme, et je vous dirai, si vous voulez, comment vous pouvez vous sauver. »«
Nous vous en serons bien reconnaissantes, » répondirent les pauvres bêtes.
« Prenez courage alors, »
dit l'ours.
« Prévenez vos parents, vos amis et vos familles. Apportez-nous toutes les pierres que vous pourrez trouver. » Nous vous en bâtirons une forteresse où vous vous retirerez dès l'arrivée de l'ennemi. »
Les grenouilles, effrayées, plongèrent aussitôt et toute leur république se mit à l'ouvrage. Pendant un jour et une nuit, elles rassemblèrent un immense tas de pierres en demandant à chaque instant s'il y en avait assez. Mais l'ours secouait la tête et leur répétait
« Apportez-en d'autres !»
Enfin, il survint une grosse et grasse grenouille qui tirait la pierre miraculeuse par un bout de cordon qui y était resté attaché. L'ours sauta de joie et s'empara de ce trésor. L'âne remercia les pourvoyeuses et voulut les tranquilliser.
« Rentrez chez vous en paix !» leur dit-il. « Je viens de lire les journaux. Ils annoncent que les monstres ont changé de route et ne passeront pas par ici !»
Les grenouilles, charmées, leur firent leurs adieux et rentrèrent dans leur retraite. Les trois amis se jetèrent de suite à l'eau, et cette fois, ils atteignirent la boîte sans encombre. Le bonhomme était prêt de mourir, car il n'avait pas mangé depuis longtemps. Ils lui firent passer la pierre par les trous du couvercle, et il souhaita immédiatement de recouvrer la santé, la liberté et la richesse. Il se retrouva dans le palais magnifique que le magicien lui avait enlevé. Ses trois fidèles compagnons y demeurèrent avec lui, et firent si bonne garde qu'ils déjouèrent tous les projets du sorcier, qui finit par mourir de rage. Ils vécurent tous les quatre jusqu'à un âge fort avancé dans une union parfaite, ce qui est fort rare entre amis. Mais il faut dire que sur les quatre, il n'y avait qu'un homme.